Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons une scène absolument bouleversante. Elle se situe, d'après l'évangéliste, dans la région de Tyr et Sidon, Sour et Saïda en arabe, et dans un peu au-dessus de Tyr, il y a une petite colline où il y a une grotte. Qui a été redécouverte au 19e siècle, si je ne m'abuse, qui s'appelle la grotte de Mantara, ou Mardouche en syriaque. Et Mantara, c'est le substantif du verbe Natara en arabe. Ça signifie surveiller, attendre. Et alors la tradition voudrait que cette grotte ait été l'endroit où Marie attendait Jésus quand il descendait à Thur et à Saïda. Parce que, d'une manière ou d'une autre, les femmes ne devaient pas y être admises. Enfin, je ne sais plus très bien l'histoire. Voilà, en tout cas, c'est un lieu marial où il y a maintenant une basilique, même un lieu de pèlerinage. Donc en tout cas, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est dans ce lieu que, de Terre Sainte, hein, donc Tyr et Sidon, c'est au Liban, c'est la Terre Sainte, que se situe cet épisode. Et nous découvrons que Jésus se fait violence. Jésus se fait violence, à mon avis, c'est-à-dire qu'il est... Il est pris par la mission qu'il a reçue. Et on nous dit, dans les évangiles, on nous dit que Jésus ne fait rien, je ne fais rien que je n'ai vu faire ou que je n'ai entendu de mon Père. Je crois qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Jésus est l'obéissance absolue. Obéir, ça veut dire écouter d'abord, hein. Obéir de tout son être, c'est le premier mot de la règle. Ausculta. Ausculta en français, ça donnait ausculter. Ausculter, c'est écouter jusqu'avec ses mains, avec son corps. Et Jésus est en relation permanente avec son Père dans l'Esprit Saint. La Trinité est toujours présente. Et cette femme arrive à un moment où Jésus est dans cette mission. Et l'interprétation possible, c'est qu'en fait, cette femme vient troubler la mission de Jésus. Et dans son humanité, Jésus perçoit ce trouble et ne répond rien. Je pense qu'il faudrait passer un peu de temps sur ce silence de Jésus. Parce que ça rejoint tellement, ça nous rejoint tellement, quoi. Voilà, je viens prier le Seigneur et la seule réponse que j'ai, bah, c'est rien, quoi. J'ai rien, j'ai un silence. Où est-il ton Dieu, dit le psalmiste. Voilà. C'est quoi ce silence de Dieu? Point d'interrogation. Mais en tout cas, ce silence de Dieu que nous éprouvons, que nous pouvons éprouver, c'est pas un silence vide, c'est un silence plein. Vous savez, je fais encore une digression, c'est une de mes spécialités. Dans le livre de Job, au début du livre de Job, on nous dit qu'il y a un dialogue entre le Satan et Job. Bon, le livre de Job, c'est quand même un bouquin à pas omettre. Hein. Mais voilà, et alors dans nos traductions. Laïque, j'allais dire, on nous dit que Dieu dit au Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Voilà, on est bien content. C'est pas ce qui est écrit en hébreu. En hébreu, il y a écrit, as-tu posé ton cœur sur mon serviteur Job? C'est comme ça que Jésus nous regarde, que Dieu nous regarde. Il pose son cœur sur nous. Donc quand cette femme lui dit, fils de David, ma fille est possédée, le diable, c'est ton ennemi, fait quelque chose, quoi. Guéris-la. Et Jésus ne répond rien, parce qu'il entend. Peut-être même il est en dialogue avec son Père. Et la mission de Jésus, ben, c'est toutes les prophéties l'annoncent. Et Jérémie, dans la première lecture, nous le dit, voilà, c'est bien la première des nations, c'est Israël, c'est vous qui serez remis en place, etc., etc. Il est question d'amour, de prédilection. Quand même un truc de fou, là, hein. Cet amour de prédilection. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Éternel en Dieu, ça n'a pas commencé, hein. C'est-à-dire que ça n'a pas de commencement, je veux dire. C'est en dehors du temps. Donc quand Dieu aime, il aime toujours. Il n'y a pas un moment où il aime plus, il aime moins, quoi. Il ne peut pas y arriver. Quand Dieu aime, il aime. Parfois on dit, les gens, oui, je suis un peu entier. Oui, bah à côté du bon Dieu, c'est une blague. Le bon Dieu, c'est tout. Bon, voilà. Donc il y a cet amour de prédilection. Donc voilà, Jésus est dans ce dialogue. Et puis regardons un peu cette femme. Cette femme, d'abord, elle est anonyme. Très intéressant, quand une personne est anonyme, ça veut dire que chacun peut s'identifier à cette femme. C'est pour ça que je faisais cette allusion tout à l'heure à nos prières. Puis alors, elle est cananéenne. Le cananéen, c'est l'Occident, hein, c'est là où le soleil se couche. Hein, c'est pas exactement l'Orient, quoi. C'est vraiment les types de la fin, quoi. Bon, le Maghrib, Maghreb, c'est la même chose, c'est l'Occident, quoi. Bon. Et puis alors, elle a ces trois interventions qui sont quand même assez géniales, quoi. Fils de David, c'est la seule occurrence, je crois, dans le Nouveau Testament où quelqu'un invoque Jésus en disant Fils de David, je sais qui t'es, etc. J'ai beau être une païenne, je sais qui tu es. Et Jésus ne réagit pas. Comme si, au fond, vous savez, c'est quand ces gens qui viennent faire la toilette de leur prière, quoi. Alors, je dis ces gens, je suis dedans. Hein. Je veux dire, voilà. Ouais, on vient faire des belles prières, quoi. Et c'est super de faire des belles prières, je suis pour, hein. Et la prière de ton cœur, c'est quoi? Alors, elle revient à la charge, elle dit, mais Seigneur, fais quelque chose, quoi. Déjà, elle est descendue d'un cran. Elle a changé de stratégie. Elle s'est dit, bon, lui dire qui il est, ça marche pas. Je vais essayer autre chose. Donc, Seigneur. Et Jésus lui fait une réponse terrible. Il lui dit, écoute. T'es gentil, hein, j'ai bien entendu ton truc, mais c'est pas ma mission, quoi. Et là, cette femme va agir sur le cœur de Jésus. Ah, c'est quand même assez fou, quoi. Je crois pas qu'on ait d'homme qui agit sur le cœur de Jésus dans le Nouveau Testament de cette manière-là. De cette manière-là. Elle descend à terre, quoi, comme les petits chiens. Elle descend par terre. Et en fait, elle arrive dans la puissance de prière de ses entrailles. Elle prie pas pour elle, elle prie pour le fruit de ses entrailles. Ma fille, est-ce que tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire? C'est ma fille. Et au fond, je pense que Jésus entend. Tu es mon fils bien-aimé, cette parole du Père, et il se passe quelque chose là. Et Jésus qui s'est fait violence pour parce qu'il est venu pour sauver, pour guérir, pour aimer, pour il lâche tout quoi, il lâche tout, et dans cet élan de la Trinité, et ben il est bouleversé. Il est bouleversé par la foi de cette femme. Et au fond, je pense que ça éclaire un peu le livre de Jérémie, où cette prédilection, c'est la mission de Jésus, c'est de dire, écoutez, elle n'est pas uniquement pour Israël, quoi. Elle est pour le salut du monde entier. Voilà, bon, c'est un commentaire rapide, mais je pense que c'est vraiment très très important que nous puissions retenir. Ce silence de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il est au contraire en train de se passer quelque chose. Le silence de Dieu, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, mais à un niveau que nous ne connaissons pas. Il faut bien nous dire que la prière est toujours exaucée, hein? Toujours, mais pas toujours de façon visible et pas toujours de façon immédiate pour nous. Mais si la prière n'était pas exaucée, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Hein, n'y a pas de schéma vel, hein, c'est comme ça. Donc, la prière est exaucée, toujours. Mais est-ce que nous pouvons recevoir la réponse? Est-ce que nous pouvons entendre la réponse? Est-ce que Dieu a besoin de corriger quelque chose en nous pour que nous puissions profiter de la réponse? Est-ce que c'est bien notre intérêt ce que nous demandons? Etc., etc., etc. Il ne faut jamais oublier quand nous prions qu'il y a un être au monde qui ne peut jamais se tromper. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas. C'est Dieu. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on est soumis, hein. On n'est pas des musulmans, on n'est pas des soumis. Hein, on n'est pas devant un potentat. Le mot omnipotent, Deus omnipotens, c'est une traduction. À l'époque, l'Église était la liturgie était en grec au 3e, 4e siècle et c'est passé en latin. Et omnipotens, c'est la traduction de pantocrator en grec. Et pantocrator, ça ne veut pas dire omnipotens. Bon, je ne m'oppose à rien. Hein. Ils ont voté ça en concile sous la motion du Saint-Esprit. Ils ont forcément fait ce qu'il fallait. J'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut bien savoir que omnipotence, pour nous, ça a un sens un peu monarchique. Historique, je veux dire, hein, de nos histoires. Voilà. Et le terme véhicule quelque chose de faux. Pantocrator, ça veut dire celui qui gouverne toute chose. Donc c'est pas une puissance écrasante, c'est une puissance élevante, comme autorité. Auctoritas, c'est celui qui élève. Voilà, bon, en tout cas, prions cette cananéenne que nous ne connaissons pas. Et peut-être, c'est particulièrement les femmes, vous pouvez peut-être vous inspirer de cette puissance qui est vôtre, qui est particulièrement féminine. Ici, nous avons une prière féminine qui est mise en relief. Et les femmes, c'est quand même la moitié de l'humanité, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Hein. Donc voilà, nous avons cette prière à méditer et demander à cette cananéenne que nous ne connaissons pas, mais qui a existé. Dis-moi le secret de ta prière. Amen.